You're racing or watching?
La dispute littérature. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pino et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Clément Daté. Réalisation Thomas Beau. Autour de moi ce soir, Lucille Como, Grégoire Leménager, Étienne de Montetti pour parler ensemble de « À son image » de Jérôme Ferrari, publié chez Actes Sud. « Un tournant de la vie » de Christine Angot chez Flammarion et « En guerre » de François Bégodeau chez Vertical. Il y aura également un coup de cœur, celui d'Étienne de Montetti pour le dernier bain de Gwenaëlle Robert chez Robert Laffont. Boris Pino est exceptionnellement là, il me fait ce grand plaisir, pour donner à entendre vos réactions concernant les livres à notre sommaire, et Dieu sait qu'il peut y en avoir. Et puis il y aura bien sûr des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour Donbass, le film de Sergueï Lonitsa qui est sorti hier dans les salles et dont nous parlerons d'ailleurs demain dans la dispute. Nous ouvrons cette dispute avec un écrivain qui fut lauréat du prix Goncourt, voilà déjà 6 ans, Jérôme Ferrari, toujours publié chez Actes Sud, un nouveau roman qui s'intitule « À son image » et s'ouvre quasiment par la mort d'Antonia, une jeune photographe corse. La cérémonie funéraire est menée par son oncle et parrain. Et le temps de ce requiem, la vie d'Antonia, va nous être racontée par bribes, une vie qui croise beaucoup de la violence du monde et qui pose aussi très régulièrement, et on verra comment, la question de la représentation. La dernière fois qu'elle l'avait vu, 10 ans plus tôt, il rentrait chez lui et elle l'accompagnait. Depuis que le car de Belgrade les avait déposés à la gare routière, il n'avait pas dit un mot. Et puis il s'était arrêté, toujours en silence, pour s'accouder à la balustrade d'un pont sur le Danube, dont les bombardements de l'OTAN de 1999 ne laisseraient bientôt subsister que les piliers. Antonia se tenait en retrait, l'appareil photo à la main, et elle le regardait. Il portait un treillis déchiré sur lequel il avait cousu ses galons de sergent et, sous l'insigne de l'armée populaire yougoslave dissoute, un écusson serbe à l'aigle bicéphale flanqué des 4 sigma lunaires. À ses pieds était posé un grand sac militaire ne contenant rien d'autre qu'une édition hongroise du Kadish pour l'enfant qui ne naîtra pas, d'Imre Kertész, le premier volume de traduction serbo-croate des œuvres complètes de Bukowski et quelques cassettes de Rem à Nirvana dont il ne se rappelait même plus la dernière fois qu'il les avait écoutées. Il se tenait la tête dans les mains. Il ne regardait pas les eaux noires du fleuve, le ciel chargé de pluie. En passant près de lui, un groupe de très jeunes gens qui s'avançaient sur le pont avait ralenti et éclaté d'un rire incompréhensible en le toisant ostensiblement. Antonia avait pris la photo, la dernière du reportage qu'elle lui avait consacré et qui ne serait jamais publiée. Il avait d'abord semblé ne pas réagir, et puis il avait relevé la tête et Antonia avait vu qu'il pleurait. Il avait ramassé son sac et, alors qu'elle s'apprêtait à le suivre, il l'avait arrêtée d'un signe de la main et elle était restée sur le pont à le regarder s'éloigner jusqu'à ce qu'il eût disparu et qu'il fût trop tard pour d'autres adieux. Et c'est Grégoire Leménager qui commence à nous parler de ce livre de Jérôme Ferrari.
Volontiers. Jérôme Ferrari, c'est un auteur qui est toujours intéressant, qui qui ne réussit pas toujours complètement ses livres. C'est-à-dire, par exemple, moi, je me souviens que Le Serment sur la chute de Rome, qui avait eu le prix Goncourt, c'est un roman que j'avais beaucoup aimé, mais dans lequel il y avait des choses qui me gênaient. Il y avait un premier petit tiers qui me semblait un peu emphatique. Il y avait un dernier tiers qui me semblait aussi procéder d'une sorte d'aspiration au sublime, pour vouloir poser des grandes questions métaphysiques, et sur un ton qui était un peu trop emphatique peut-être. Et puis il y avait un gros tiers au milieu que je trouvais absolument formidable, qui était l'incarnation de toutes ces questions métaphysiques ou existentielles que pose Ferrari dans un décor extrêmement trivial, un petit bistrot de village avec des cochons sauvages et des gens ivres. Et ce qui est formidable, c'est ça, c'est quand il arrive à incarner ces questions, il est prof de philo, quand il arrive à incarner ces questions dans quelque chose de trivial, quelque chose de réel. Et là, je trouve qu'il y arrive très bien. Et il y arrive très bien parce que il y a ce personnage de jeune photographe qu'on imagine très bien, qui a un destin terrible puisqu'elle elle se tue en voiture très jeune et dont on découvre la vie au fur et à mesure. Sa passion pour la photo qui l'a amené à devenir reporter. Donc ses premiers reportages, c'est en Corse, hein, c'est sur des concours de pétanque en triplette. Et puis après, petit à petit, elle en a un peu marre de photographier les comités des fêtes, les élections de Miss et surtout, je cite, les jeunes gens posant en cagoule dans le maquis, le fusil à la main, qu'elle trouve un peu grotesque, et Ferrari règle quand même ses comptes avec certaines mises en scène des nationalistes corses. Et donc elle part pour ce qui est aujourd'hui l'ex-Yougoslavie, pour un terrain en guerre. Elle prend des risques. Donc il y a toute une réflexion sur le métier de photographe de guerre. Et puis après elle revient, elle fait des photos dans les mariages pour gagner sa vie, et puis elle meurt. Donc l'histoire de cette fille est plutôt intéressante, est bien menée. Il y a tous ces liens à elle avec les nationalistes, en particulier avec un personnage, un militant nationaliste dont elle est amoureuse. Je trouve que tout ce qui tourne autour de ses sentiments, de ses relations avec les garçons dans le livre est traité de manière assez fine. Et puis surtout, moi, ce que j'ai préféré, c'est le dispositif, c'est-à-dire que tout ça est intégré dans une messe. Alors on avait le serment sur la chute de Rome, là c'est pas tout à fait un sermon, mais on est plus ou moins dans la tête de ce prêtre, qui est un très beau personnage. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de prêtre dans la littérature française. Bon, j'ai rien pour ni contre, mais ça, quand c'est bien fait, ça donne des personnages intéressants quand même. Et là, celui-là, elle est vraiment, c'est-à-dire que c'est pas du tout un prêtre idéaliste, il se fait aucune illusion sur ce que sont les hommes, parce qu'il est particulièrement bien placé pour connaître toutes les saloperies dont ils sont capables, il les entend en confession régulièrement. Et donc ce personnage qui encadre toute cette histoire et lui donne aussi une profondeur, je trouve.
Je reviendrai vers vous, bien sûr, Grégoire. Étienne de Montetti, premier regard sur celui de Jérôme Ferrari à son image.
Je partage largement l'avis de Grégoire Le Ménager. Il m'a même volé pas mal de mes arguments.
Ah, vous en avez d'autres, Étienne.
Oui, non, pour dire que c'est une véritable réussite, que cet entre-là assez ambitieux de beaucoup de sujets, effectivement, la représentation par l'image qui permet à Ferrari une certaine audace, puisqu'on part assez longuement dans des histoires très très éloignées de la Corse. Hein. Il va évoquer des histoires qui n'ont rien à voir, mais qui sont reliées du moins au personnage d'Antonia à cause de la photo, donc des figures de l'histoire de la photo, des photos historiques. Et il faut accepter ce dépaysement, qui évidemment permet de donner une sorte de reflet au travail d'Antonia, cette réflexion de comment représenter les choses, les vies, comment représenter le malheur avec la guerre, puisqu'elle se rend en ex-Yougoslavie, ce qui donne d'ailleurs en pleine période de guerre civile, ce qui donne aux nationalistes corses avec un caractère un peu dérisoire. Elle se rend compte que finalement la guerre civile ou les guerres intestines ont toujours ce côté tragique et dérisoire. Voilà, elle est photographe. Effectivement, ce prêtre est une grande réussite parce qu'il est extraordinairement incarné. On va pas tout raconter, mais il a une vie avant la prêtrise. Et À travers ce personnage, il y a évidemment ce pasteur assez étonnant, mais il y a aussi, puisque le livre est construit selon un office de l'obsèque, c'est aussi comment on dit la mort. Il dit des choses très très justes sur toutes ces paroles inutiles qu'on dit au moment de la mort, notamment en faisant l'éloge du défunt. Au début, il y a des phrases extrêmement fortes. Et lui estime, et c'est très très intéressant, que finalement la liturgie, ces mots posés depuis plusieurs centaines d'années, au fond, suffisent largement et que tout ce qui est dit à côté est du bavardage. Ça donne évidemment un prêtre pas conventionnel, et pour un écrivain comme Ferrari, je trouve que c'est des annotations très très justes sur ce qu'on peut dire et ce qui nous précède et qui est dit pour toujours, et ça c'est une des intuitions du livre qui m'a énormément plu. Et puis ce portrait, évidemment, ce tableau, cette fresque de la Corse, de ce mouvement nationaliste à la fois grandiloquent, emphatique, absurde, parfois ridicule, là aussi il s'en sort comme un écrivain. Ce qui choque Antonia, c'est parfois moins la violence que, par exemple, la bêtise d'un slogan qui va être inscrit sur un mur avec une énorme faute d'orthographe. Et elle va s'en prendre aux nationalistes, pas du tout pour contester leur cause, mais pour leur dire que quand on fait de la politique ou quand on fait de l'activisme, il faut encore faut-il savoir écrire avec une orthographe convenable. Tout ça, ce sont des intuitions d'un écrivain qui font du livre un très très beau livre.
Lucille Comeau, à présent.
Oui, le prêtre, il y a un moment qui lui pose problème pendant la cérémonie, parce qu'il est proche de la morte, c'est l'homélie, c'est ce moment où la forme liturgique nous lâche, parce qu'il n'y a pas de règle et on est censé faire un éloge ou parler du défunt. Et moi, je trouve que c'est assez métaphorique de la manière dont Jérôme Ferrari écrit, qui est une manière extrêmement maîtrisée, dans une virtuosité qui, moi, je trouve, étouffe un petit peu le contenu. En effet, c'est un livre extrêmement virtuose, vous l'avez dit, par sa construction. Il y a un double le mode d'engendrement du récit. Il y a à la fois la liturgie, puisque les chapitres sont construits selon les moments de la messe, et des photographies, puisque sous les moments de la messe, il y a comme des légendes de photographies qui seront l'objet des chapitres en question. Ce double enfermement, moi je trouve, étouffe un petit peu ce qu'il y a dedans. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est un roman qui est assez court, mais où en effet, vous l'avez décrit, il y a à la fois un triangle amoureux, le portrait d'une jeune fille, ce prêtre qui est un personnage passionnant et son parcours jusqu'à la prêtrise, la question indépendantiste corse jusque dans ses moindres recoins historiques, une réflexion sur le photojournalisme, sur ce qu'est la photographie comme art et comme moyen journalistique. C'est difficile de parler de tout ça dans une forme aussi corsetée, à mon avis, sans faire de jeu de mots, et également aussi rapidement. Et moi, je trouve que parfois, ça effleure un peu. Je suis pas extrêmement touchée, à l'inverse de vous deux, par les personnages que j'aimerais connaître plus, et notamment Antonia, dont on a l'impression qu'elle est au centre d'un tombeau, mais que c'est le tombeau qui importe, et elle est un peu écrasée par l'édifice littéraire. De la même manière, le prêtre m'intéresse en effet énormément. Je suis d'accord avec vous, Grégoire, c'est passionnant, un personnage de prêtre, et celui-là l'est davantage peut-être. Et on n'a pas assez accès à son intériorité, son parcours est un peu effleuré. Et là où je suis encore plus peut-être dubitative, c'est sur la photo. Je trouve que ce qui émerge de réflexion sur ce que c'est que la photo par rapport à la mort, à la violence, à la guerre, est assez sommaire. Au mieux pas abouti, au pire un peu simpliste, à mon avis. Je trouve vraiment que c'est un beau roman, mais que c'est comme une sorte de concentré qui pourrait être développé pour être plus ample. Et... Parce qu'il y a, matière à une fresque, vous le disiez, vous parliez de fresque. C'est pas une fresque, il n'y a pas assez, et ça pourrait l'être.
Mais alors, je vous rejoins, là, Lucille Comeau, sur la question de la photographie, qui, moi, est évidemment une chose qui m'intéresse particulièrement, enfin, à l'égal des autres arts, et qu'effectivement, c'est souvent le cas d'ailleurs dans la littérature française ou mondiale, que quand un écrivain s'empare d'un autre art, c'est pour dire des choses souvent pas très intéressantes. Là, c'est plutôt bien, parce que quand même Jérôme Ferrari, c'est quand même quelqu'un qui a un rapport au monde que vous avez décrit les uns et les autres, assez puissant pour quand même... Mais ça dépasse pas beaucoup l'analogie avec ce que peut la littérature, ce que peut la photographie, donc bon, c'est assez... C'est pas l'axe par lequel il faudrait le prendre, mais je me disais en vous écoutant que c'est intéressant le sommaire de cette émission de ce soir, puisque on a différentes tendances de la littérature française, une certaine tendance du roman français avec François Bégaudeau, dont on parlera tout à l'heure, qui se veut politique, une certaine tendance de l'héritage autofiction avec Christine Angot, dont on parlera dans un instant, et qu'avec Jérôme Ferrari, on tient quand même quelqu'un qui suit un chemin qui n'est pas le plus fréquenté en France ces dernières décennies, j'ai envie de dire, et que d'avoir un écrivain comme ça, et avoir un représentant de ce type de romanesque dans la littérature française, moi je trouve que ça me fait du bien, et que, même si j'entends bien les réserves que vous pouvez avoir et que je partage pour certaines sur la virtuosité qui contraint un peu, je préfère quelqu'un de virtuose à quelqu'un de plus laborieux. Vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, je pensais en vous écoutant sur la photo, il y a un autre écrivain qui fait ça, travailler et d'écrire des photographies en littérature, c'est Éric Vuillard, qui le fait beaucoup dans tous ses romans et qui, je trouve, parvient justement à dépasser la question de l'analogie entre création littéraire et photographie, qui est à mon avis quelque chose d'une modernité un peu dépassée. Mais j'ai pensé à Vuillard en lisant le roman de Ferrari.
Yann de Montetti.
C'est peut-être le titre qui nous induit en erreur, parce qu'à son image, c'est évidemment une formule qui renvoie à la photographie, qui ramène aussi à la religion, hein, puisque dans la religion chrétienne, on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ce point, justement, du va-et-vient entre la représentation et puis la religion, qui a quand même été quelque chose qui, pendant 2000 ans, a déchaîné les passions, hein, l'iconoclasme, etc., qui est encore un problème dans la religion musulmane, hein, ce qu'on peut représenter, parce que c'est l'apanage de Dieu. Tout ça, c'est absolument absent du livre, ça c'est vrai. Et au fond, c'est un livre dont j'ai tout aimé, peut-être, sauf le titre. Parce que j'aurais aimé, ou j'attendais peut-être confusément que ce point soit abordé. De même, j'ai trouvé un peu artificiel ces titres de photos en début de chapitre qui avaient un lointain rapport. Je trouvais que c'était un peu des affaîtriers romanesques qui, de fait, nous gênaient un peu, alors qu'il suffisait de rentrer dans le chapitre qui suivait. Et là, on plongeait dans un univers riche et passionnant.
Juste par rapport à ce que vous disiez aussi, Lucille Comeau, sur Antonia, qu'on n'arrive pas à saisir, moi, ce qui me plaît aussi dans ce livre-là, et c'est presque, je pense, aussi son sujet, que l'impossibilité d'attraper ce personnage. Et là, je trouve que la virtuosité de Ferrari n'est pas vaine, Grégoire Leménager.
Oui, sur Antonia, je suis d'accord, le personnage reste assez lointain, assez insaisissable, mais je pense que ça lui donne aussi du mystère, et il y a des pages où d'un seul coup, il est très bouleversant, enfin, en particulier... en particulier dans ces histoires avec les garçons, justement, quand il y en a
sans rien trop dévoiler,
qu'elle se retrouve dans les bras de son ami et tout ça, il y a, de temps en temps comme ça, c'est très émouvant. Et puis elle s'éloigne de nouveau. Non, pour ce qui est de la photo, je vous trouve sévère, parce que non seulement il ne dit pas de bêtises sur ces questions de représentation sur la photo, et puis c'est pas seulement une comparaison entre les pouvoirs de la photo et de la littérature, ça l'est toujours implicitement quand un écrivain s'exprime, mais c'est pas seulement ça, sa question c'est la question de la représentation de la violence qui est quand même le truc qui l'obsède, peut-être parce qu'il est corse et que la Corse est un endroit violent, mais c'est vraiment cette question qui l'obsède, et c'est une question d'ailleurs qu'il a, bon, là il l'effleure, il approfondit pas toujours beaucoup, mais il l'a traité dans un petit livre que je vous recommande si vous avez aimé celui-là, qui est son prolongement, qui s'appelle « Affendre le cœur le plus dur », qu'il avait publié il y a quelques années, qu'il avait coécrit avec Oliver Roe, qui est un garçon très très talentueux, et dont il reprend un passage d'ailleurs, vous savez le photographe qui a couvert la guerre en Libye et les exécutions de Libyens, qui montre comment on a essayé de civiliser les Arabes au début du XXe siècle, d'une manière absolument barbare, qui s'appelait Gaston Chéreau, et il en est question, il en reprend, il en fait un chapitre comme ça, qui l'intègre. Et cette question de la représentation de la violence par la photo, et de est-ce que ça nous insensibilise, ou est-ce qu'au contraire ça dénonce, ou est-ce qu'on... il pose toutes ces questions.
Oui, il n'est pas le premier à les poser, il ne les pose pas de la façon la plus pointue, mais il n'est pas là pour ça. Hein. Et Lucille Comeau ?
Non, et surtout, c'est peut-être une des réflexions les plus, je trouve, artificiellement menées dans le livre. Et vous parliez des digressions en question, donc qui concernent surtout Gaston Chéreau et un autre photographe qui s'appelle Rista Marjanovic. J'avoue que j'ai du mal à comprendre ce qu'elles viennent faire là, et je trouve qu'elles nous induisent en erreur, elles nous mettent sur...
d'autres lieux de conflit, parce que c'est la guerre de 40 pour Rista.
Bien sûr, mais sur la forme, elles nous mettent sur la piste d'une ouais. réflexion théorique ou de l'essai ou en tout cas quelque chose, d'une réflexion théorique sur la photo qui, à mon avis, n'avait pas besoin d'être là ou n'était pas nécessaire pour qu'on comprenne pour le personnage d'Antonia ou pour les personnages qui l'entourent l'intérêt et la question de la représentation photographique.
Oui, sauf que Antonia s'est peut-être fichue en l'air volontairement et que peut-être que le fait qu'elle ait pris conscience en Yougoslavie et en Corse que photographier la violence ne servait à rien, ça peut peut-être contribuer à la miner quand même. Enfin, il y a aussi cette dimension quand même dans le livre, tout est rattaché aussi. Et le livre est très dense, mais effectivement, enfin, on ne va pas se plaindre d'avoir enfin un livre court, tous les livres sont beaucoup trop courts cette année.
Et dense.
Et un livre court, dense, intelligent, bon...
C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis très heureux
que
Jérôme Ferrari existe dans notre littérature. Le livre s'appelle « À son image ». Il est publié chez Actes Sud. À suivre dans la dispute « Un tournant dans la vie » de Christine Angot. Je marque la césure parce que sinon, c'est « Un tournant dans la vie » de Christine Angot. C'est un peu compliqué à la radio. C'est chez Flammarion. On parlera aussi de « En guerre » de François Bégodeau et on aura un coup de cœur d'Étienne de Montetti.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Oui, et puis c'est une dispute 100% littérature française. On n'a pas fait exprès, mais c'est un cas. C'est le cas avec donc maintenant le nouveau livre de Christine Angot, Un tournant dans la vie, chez Flammarion, récit d'un retour de flamme pour un ancien amour. J'ai pas pu faire plus court comme résumé. Quand j'ai rencontré Vincent, j'habitais une petite rue derrière Saint-Lazare. Je louais un appartement où je vivais avec ma fille. J'étais arrivé à Paris quelques années plus tôt, j'avais eu une histoire importante et des histoires sans intérêt. Depuis que je connaissais Vincent, il venait tous les jours. Un après-midi, il est passé avec Alex. L'appartement avait un petit balcon. Alex est resté une heure accoudé à la balustrade. Il regardait la rue. Vincent et moi parlions dans le salon. La deuxième fois que je l'ai vu, c'était à une fête. Il avait un sourire incroyable. La troisième fois, c'était chez lui. Il avait mal à la tête. Il était allongé sur un divan, la main sur le front. Quand il ne souriait pas, à moins que la goutte d'eau fasse déborder le vase et qu'il se mette à hurler ou que des grosses lames coulent sur ses joues, on ne savait pas ce qu'il éprouvait. Étienne de Montetti, on nous a reproché sur les réseaux sociaux de parler de ce livre de Christine Angot, comme si sa présence médiatique n'était pas suffisante. Vous voyez de quoi je veux parler comme tweet, Boris Pinault, que vous êtes en train de rechercher. Je vous ai pas prévenu. Vous êtes en train de le chercher. Vous allez le trouver. Pourquoi faire une place encore à Christine Angot, c'est à peu près le résumé. C'est vous qui avez proposé que nous parlions de ce livre, Étienne.
Mais oui, il était sur une liste qui nous était aimablement soumise.
Très longue liste.
Je me suis dit, tiens, lisons ce livre dont tout le monde parle depuis bien avant l'été, avec, comme toujours, quand il s'agit de Christine Angot, une rumeur qui la précède. On attend toujours un événement, ceux qui l'aiment l'adorent, ceux qui ne l'aiment pas la détestent. Et moi, j'avoue qu'à chaque fois, je me dis, bah tiens, faut que j'aille voir. On sait jamais, j'espère toujours que la grâce angotienne me tombera sur les épaules, et je fais donc à chaque fois le pari de Christine, comme on ferait le pari de Pascal. Lisez, et puis bah, peut-être qu'un jour, vous croirez en Christine Angot. Donc j'ai donc ouvert ce nouveau roman de celle qui est devenue la Marguerite Duras de On n'est pas couché, je suis donc tombé sur cette histoire d'une femme tiraillée entre deux hommes, qui est un classique de la littérature. Là, c'est deux amis, Vincent et Alex, un procédé du trio amoureux qui a donné pas mal de livres, même des chefs-d'œuvre. Je pensais au Franz Sessel, dont le Berlin secret a été réédité il y a un ou deux ans, qui était un livre magnifique. Et là, je suis tombé sur un livre, évidemment, qui n'est pas tout à fait à la hauteur de Franz Sessel ou d'autres, largement bâti sur des dialogues qui sont longs, qui sont souvent faibles, qui, évidemment, sont obligés d'emprunter un style qui est nécessairement oral, étonnamment, d'ailleurs, avec, par exemple, des tics comme l'absence de négation qui... je trouve est assez dérangeante. Et puis, quelque chose qui donne l'impression qu'il est, que Christine Angot est comme les feuilletonistes du 19e siècle, c'est-à-dire payés à la ligne avec des dialogues qui parfois n'excèdent pas un mot ou deux, qui donnent le sentiment qu'elle essaye de trouver du rythme par ses discussions de la vie quotidienne, sauf que malheureusement ça n'est pas toujours très 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 intéressant. Il y a beaucoup de huis clos, même si les personnages se déplacent un petit peu. Vous avez cité une balustrade qui a beaucoup d'importance dans le livre. On va du salon au
balcon.
Au balcon, on s'appuie sur la balustrade et puis on fume, parce que même si on est avec un écrivain rebelle, on ne fume pas à l'intérieur d'un appartement. Je me suis d'ailleurs esclaffé dans ce livre qui m'a par ailleurs pas mal ennuyé. Page 49, il y a une scène tout à fait inouïe. L'héroïne est en train de préparer le dîner pendant que son compagnon regarde un match de football à la télévision. Alors ça, dans l'univers angotien, ça je n'en suis pas revenu.
Vous êtes plein d'a priori.
Qu'un homme regarde la télévision pendant qu'une femme fait la cuisine, et je pensais que ce livre nécessitait un sticker du ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que je trouvais que c'était un exemple à donner à la jeunesse qui était tout à fait répréhensible.
Mais vous aurez remarqué, alors j'ai pas le numéro de la page, mais que lui-même, Alex, cuisine parfois, elle.
Mais pas ce jour-là.
Et elle ne regarde peut-être pas de match de foot pendant qu'elle cuisine, mais elle cuisine aussi.
J'étais assez choqué. Voilà, on va arrêter là. J'ai trouvé que ce livre manquait d'intensité, tout simplement, était assez ennuyeux. Je passe sur les lettres capitales. Quand il y a une scène qui prend de l'ampleur, on écrit non en lettres capitales avec si haut. Bref, non, c'est la réponse à la question que vous m'aviez posée, ce que j'ai aimé Christine Angot.
C'était pourquoi vous aviez choisi qu'on programme ce livre dans l'émission. Lucille Comeau était invitée par une folle espérance que vous défendiez ce livre.
Pas du tout, parce que je ne connais rien à Christine Angot. Donc au moins, vous avez un regard absolument neutre sur la question.
Quelle chance.
C'est le premier livre que vous lisez d'elle ?
Oui, tout à fait, exactement.
Je suis désolé de
vous avoir affiché ça. Christine Angot.
Je vous présente mes excuses.
En fait, je ne sais même pas tellement quoi dire, parce que échafauder un discours sur ce texte relève d'une, mais pour le coup c'est intéressant, hein, je pense, hein, d'une acrobatie, parce que on a vraiment l'impression de construire une forme d'échafaudage théorique sur quelque chose qui pourrait nous tomber quoi, se dérober en dessous. Donc c'est assez vertigineux. À quel point c'est rien, et c'est tellement vertigineux à quel point c'est rien qu'on en vient à se demander quelle est la nature du rien en question. Je ne sais pas si c'est très clair. En effet, Étienne a décrit des successions de dialogues d'une pauvreté à la fois idéologique, parce que vous essayez de trouver des petites choses avec votre blague sur la femme qui fait la cuisine et l'homme devant la télévision. Mais moi, j'ai même pas trouvé ça. Je ne sais pas comment vous dire. Je n'ai rien à dire sur ce qui est dit dans ce livre. Voilà.
D'accord.
En fait, j'ai du mal à théoriser parce que je n'ai rien à dire sur rien.
Comme j'entends déjà Grégoire Le Bénel soupirer, je vais me lancer pour qu'on fasse entendre une autre voix dans cette émission. Vous n'avez rien trouvé, vous n'avez pas trouvé l'amour, Lucille Comeau, qui est quand même le fondement et l'amour dans la façon dont il rend, je vais essayer de développer, les gens très bêtes. Pardon,
non, mais je dis c'est louable. Hein.
C'est louable, mais non, mais
j'admire.
Écoutez, moi j'ai ouvert sans préjugé aucun, ayant aimé certains des livres de Christine Angot et n'ayant pas aimé d'autres, notamment les derniers, les trois ou quatre derniers d'ailleurs, je pense. J'ai ouvert avec l'espoir de retrouver, pour ma part, la grâce angotienne. Et moi j'ai été touché par ce livre. Je ne peux pas vous dire ça autrement. J'ai lu hier après-midi d'une traite, ce qui n'est pas très long, je vous l'accorde. De petites heures, en allant doucement. Et il y a quelque chose dans ce qui n'est pas nouveau chez elle, non, mais dans cette mise à nu, dans ce que les sentiments humains peuvent avoir de plus petit, de plus méprisable, de plus anecdotique aussi, qui m'a ému. Et à la limite, en fait, moi je pense que j'aurais préféré que ce livre ne soit constitué que de dialogues. Je vais plus loin qu'elle, hein, vous voyez. Oui, je sais, mais j'assume absolument ce que je dis. Parce que les parties, disons, on va dire, de prose sont trop explicatives, presque. Et que moi, ce qui m'intéressait, c'était le déroulé de ces conversations qui, effectivement, reposent sur pas grand-chose, sur du presque rien, mais qui est aussi ce qui fait nos vies. Il y a quand même beaucoup de nos vies qui sont constituées de pas grand-chose, Lucille Comeau. Vous voulez rajouter quelque chose avant Grégoire Le Ménager?
Non, je voulais juste dire qu'il y a...
C'est pas vrai?
Parce que c'est... Alors, dans ce cas-là, ça crée un abîme chez nous. Enfin, ce que vous décrivez, c'est une grande, grande tristesse. Mais c'est,
non,
c'est bien.
Non, c'est
hein,
d'une grande lucidité, je crois, oui. Et qu'il y a peu d'écrivains qui essayent d'atteindre à cette lucidité. Je crois que Christine Angot continue à essayer, même si, si c'est sous les ricanements de beaucoup, ou devant l'atterration de beaucoup aussi. Voilà, je crois qu'elle fait, elle fait ce travail-là.
Je voulais juste, parce que s'il y a peut-être un élément théorique à déceler, que j'ai essayé de trouver avec mes petits réflexes d'analyse, c'est la position, parce qu'il n'y a pas que le personnage, le trio amoureux, il y a aussi les copines de la narratrice qu'elle appelle et qui sont en général les destinataires des textos ou des dialogues qu'on a dans le livre et qui peuvent être vues comme des relais du lecteur et qui demandent. Parce que c'est des personnages qui n'existent pas, enfin, mais pourquoi pas, hein, mais qui sont totalement fictifs, parce que ce sont des personnages de pur réceptacle.
Dans l'interaction avec
voilà,
et quasiment.
Qui sont dans une forme de compassion, d'empathie. Et je pense que c'est ça que nous demande ce livre, parce que sinon c'est impossible de le lire. Et moi, c'est impossible pour moi de donner ça au narrateur. Donc je ne peux pas en dire grand-chose. Voilà.
Grégoire Leménager.
Écoutez, moi j'ai trouvé ce livre extraordinaire. Je trouve.
Nous parlons d'un tour dans la vie de Christine Angot et on coupe là. Et puis voilà. Là, non, citation de Grégoire Leménager sur le bandeau.
Je trouve extraordinaire de. Enfin, je sais pas, c'est l'histoire d'une femme qui se retrouve partagée entre deux hommes, qui se pose des questions là-dessus. Ça devrait être intéressant et ça ne l'est jamais. Mais absolument jamais. Et j'ai exactement la même réaction que Lucille, c'est-à-dire que on n'a rien à dire sur ce livre tellement il est plat, tellement il manque, tellement il n'a aucun relief, il n'a aucun intérêt, il n'offre aucune prise, rien. C'est j'ai rarement vu ça. C'est vraiment comme si vous me demandiez d'analyser un mauvais épisode d'Hélène et les garçons. C'est à peu près du même niveau de profondeur dans la représentation des sentiments. C'est assez sidérant. Et je pense que j'ai du mal à comprendre certains confrères qui comparent ça et qui nous expliquent que c'est le Racine de notre époque. Hein. Il y a quand même un problème dans la réception de ce livre. Pas vous. Vous étiez beaucoup plus mesuré.
Et je vous dis l'effet que ça m'a fait.
Oui. Non, mais
parce que c'est vraiment compliqué d'en parler.
Qui le comparent à Racine et qui le comparent à Jules et Jim parce que Christine Angot surligne qu'elle a essayé de faire un Jules et Jim à l'intérieur du livre, etc. Mais c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Et alors, ce qui est très étrange, c'est qu'avec cette écriture qui est même pas une écriture plate, enfin ce qui est une écriture molle, informe, je sais pas, l'écriture plate c'est ce que fait Annie Arnaud et c'est passionnant, y compris quand elle raconte des choses très intimes. Là c'est une écriture qui est molle, qui n'offre rien, qui n'apporte rien. Et le pari qu'elle fait, c'est que l'émotion de ces personnages va nous émouvoir, ce qui est à la fois d'une grande naïveté et d'une très grande prétention, me semble-t-il. Or, et elle ne fait rien pour que... Enfin, elle ne fait aucun travail. Il est où le travail de l'écrivain et du romancier là-dedans pour nous sensibiliser à ces personnages? Je ne sais pas comment vous avez fait pour être touché. Ils restent très très loin. Vous l'avez dit, l'amour les rend bêtes. Mais comment se passionner pour des personnages qui sont stupides et qui se comportent de manière stupide du début à la fin, qui sont incapables de s'analyser, de réfléchir? Et alors les copines, elles servent à quoi? Elles servent effectivement à ça. Et puis elles servent à autre chose. Alors là, c'est encore pire. C'est qu'elles servent à nous souligner les enjeux. C'est-à-dire que la copine, elle sert à dire à l'héroïne à la page 140 à peu près. C'est-à-dire on a compris quand même la situation, c'est à lui dire tu n'es pas seulement partagé entre deux hommes, tu es partagé, c'est encore pire, tu es partagé entre deux hommes qui sont amis. D'accord, on l'a compris, c'est posé dans les 10 premières pages et c'est martelé tout le temps. Et donc il y a un effet, il y a une lourdeur en plus dans cette mollesse-là qui est assez prodigieuse. Et puis les dialogues, ça me fait mal de l'admettre, mais je suis d'accord avec ma camarade Elisabeth Philippe qui a écrit qu'il ressemblait à du Romère parodié par les nuls, parce que quand même, il est bon ton fromage, délicieux, et toi ton potage, tout est bon.
Oui, mais
pain,
bon,
la
les citations à charge n'a pas cours dans cette émission.
Bah, Étienne de Montessi. Non, je m'apprête à la faire, mais effectivement, cette référence à Jules et Jim, à l'intérieur même du livre, appuyé hyper lourdement, c'est Jules et Jim, le film de Truffaut, au cas où, et puis un petit peu plus loin, mais deux lignes après, pour pas que le lecteur décroche, Truffaut, c'est bien, vous voyez, c'est quand même pas grand-chose. Moi, j'ai relevé beaucoup de fautes de français, j'ai trouvé que c'était très négligé comme style, avec des vrais fourges. Ça fait longtemps.
C'est parlé.
Non,
c'est
parlé. Non. Etienne, là, c'était pas un dialogue. Vous... Non, là, mais c'était pas des dialogues.
Non, mais quand bien même si ce sont pas dans, si c'est pas dans les dialogues,
et
vous
ça,
voyez bien.
Et ça ne fonctionne pas. Le parler peut être très travaillé et avoir une espèce d'oreille qui fait que le lecteur s'y retrouve. Et là, c'est
inouï. Non, mais le fait est que je ne crois pas que ce soit fait pour que les lecteurs s'y retrouvent.
Avec des paradoxes, avec des paradoxes inouïs. Il y a une grande pauvreté dans les dialogues, alors que les SMS échangés, par exemple, sont extrêmement littéraires.
Ça dépend lesquels. Ça dépend qui les écrit. Donc, ça dit des choses des personnages qui, selon vous, n'ont pas d'épaisseur.
Pas grand-chose.
Qui ne soient pas écrits selon le même style. Effectivement, les lecteurs des textos d'Alex disent beaucoup sur lui. Et enfin, bon, des questions de classe, des questions de dominant-dominé. Bien sûr, tout ça est surligné, mais ne dites pas qu'il n'y a rien.
Si, alors là, l'argument psychologique, honnêtement, je n'y crois pas une seconde. Alors encore moins de social, que je ne vois rien de ça. En fait, moi, ce qui me dérange dans ce que vous disiez, même si on est du même avis, Grégoire, c'est que la représentation en soi de la stupidité et de la banalité, ça
pourquoi a fait pas des livres,
hein. Mais justement, le problème, c'est que ça a fait beaucoup de bons livres. Et que depuis la fin du 19e siècle jusqu'à Beckett, on en a lu du rien par Beckett, Flaubert, etc. Sauf que, en fait, si c'est une performance ce livre, si c'est un évidement absolu du sens par la description du quotidien le plus trivial, moi ça m'intéresse pas parce que ce type de performance et dispositif, ça a été fait par d'autres et mieux, et du coup c'est une marque datée, enfin c'est quelque chose de daté pour moi dans la littérature. Si c'est pour provoquer quelque chose chez moi, encore une fois, je le dis, je pense que ce que ça appelle, c'est une forme de pitié, et moi c'est vraiment quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout d'éprouver pour un quelconque livre ou un quelconque personnage de livre. Donc du coup, dans les deux cas, ça ne m'intéresse pas. Après, vraiment, la question du style et des fautes de français, franchement, je pense pas que ce soit la question. Il y a plein de livres avec des fautes de français.
C'est une circonstance aggravante quand on est en littérature, quand même.
Non, je crois pas. Mais si, moi, pour moi, le débat se situe pas du tout sur la question de la langue.
C'est pas le débat, mais c'est une circonstance aggravante.
Allez, gardons du temps pour la suite de ce verre, puisque bon, vous parlez d'une seule voix quasiment.
Oui.
Nous parlions de Christine Angot et de son livre Un tournant dans la vie, publié chez Flammarion. Alors là, on sait qu'a priori, c'est un coup de cœur d'Étienne de Montetti. Encore que cette séquence quotidienne, désormais, qui tourne entre différents critiques, peut être aussi un coup de griffe, hein, je le rappelle. Là, vous l'avez donné, je crois, donc c'est fait. Coup de cœur, Étienne de Montetti, pour Le Dernier Bain de Gwenaëlle Robert, sorti chez Robert Laffont. Pourquoi ce coup de cœur?
Parce que c'est un auteur que je ne connais pas, que je n'ai jamais lu, et que son livre m'a attiré par la couverture, qui est la représentation de Marat assassiné dans son bain par David, tableau archi connu.
Par Charlotte Corday. Je pouvais bien vous corriger cette erreur historique, quand même, c'est navrant.
Bravo, par Charlotte Corday, et peint dans la foulée par David en 1793. Et de ce tableau, l'auteur part pour faire un roman qui tourne comme si Marat était le pivot immobile puisqu'il est mort, muet parce qu'il est mort, de toute l'histoire de l'époque dans un Paris révolutionnaire, 1793. Marat, le révolutionnaire qui a le vent en poupe, qui est le sanguinaire Marat, eh bien on se rend compte que beaucoup de personnes dans Paris ont des raisons de lui en vouloir, des femmes d'ailleurs, parce qu'il était médecin et que des anciennes patientes lui en veulent, parce qu'il est un amant et un père indélicat, et puis aussi parce que c'est un révolutionnaire qui est en train d'emmener la révolution vers une direction. Et donc, parmi tous ces personnages, il y en a une, c'est pas la plus résolue d'ailleurs, qui s'appelle Charlotte Corday, et on observe de manière très bien faite cette espèce de danse macabre autour de Marat qui va se rapprocher de lui jusqu'au moment fatal. C'est un roman, encore une fois, très très réussi et que je recommande dans cette rentrée littéraire chargée.
Le Dernier Bain de Gwenaëlle Robert chez Robert Laffont. Comme ça nous permet aussi une introduction pour un sujet dont on parlera demain, le film de Pierre Scholler, Un peuple et son roi, hein, c'est bien ça, qui se situe un petit peu avant ce dernier bain. J'adore le titre, hein, par rapport à ce dont il s'agit, ça c'est bien trouvé. Le Dernier Bain.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Et la dernière séquence de cette dispute littéraire avec le nouveau livre de François Bégaudeau, En guerre, dont l'éditeur nous explique le propos en quatrième de couverture, que j'ai lu pour une fois. Dans une France contemporaine fracturée, François Bégodeau met en regard violence économique et drame personnel, imaginant une exception romanesque comme pour mieux confirmer les règles implicites de la reproduction sociale. Sachant qu'ils ne pourront pas compter sur un périmètre professionnel commun, l'embauche de Romain à l'entrepôt logistique d'Amazon, où Louisa accomplit un second CDD de 3 mois, étant aussi incertaine que la candidature de celle-ci au bureau régional des affaires culturelles, où celui-là coordonne l'opération décloisonnement et vivre ensemble. Ni sur leur frôlement fortuit entre deux portants de la boutique Cache-Cache, dans laquelle Romain ne s'imaginerait pas entrer, imprégné qu'il est, malgré lui, du postulat que les femmes ont seules à se soucier de la chatoyance de leurs dessous, et privé qu'il est depuis 7 mois d'une compagne à laquelle offrir de la lingerie, étant entendu que l'Émilie en question aurait trouvé incongru que son compagnon, rencontré en lettres supérieures, lui offre l'ensemble fuchsia en dentelle plus sport jartel dont Louisa a pensé, à raison, que son concubin Cristiano apprécierait l'effet sur son corps lors de la Saint-Valentin, à laquelle Émilie et Romain n'ont sacrifié qu'une fois en 13 ans, et sur le mode ironique propre au non-dupe. Ni sur une stase longue dans un des restaurants du quartier piéton dont le même Cristiano ne supporte pas les demi-portions, sans parler de leur carte végétarienne, passible de l'objection qu'on n'est pas des lapins. Opinion à laquelle Louisa souscrit, aimant trop steak et rhum steak pour s'infliger un déjeuner à la cantoche dont Romain, qui par choix plus ou moins libre, se restreint depuis 2013 à la viande blanche, a testé et approuvé le vegan burger. C'est Lucille Como qui m'a fait ce joli cadeau de programmer François Bégodeau dans cette émission avec son nouveau livre En guerre, publié chez Vertical. Là, vous avez plein de choses à dire et une feuille noircie. Mais c'est fait pour ça, hein, donc
déjà,
ça tombe
bien.
Il faut
quand même dire un petit peu qui sont les personnages du roman. Voilà. Donc il y a Louisa, dont vous avez cité le nom dans votre lecture, qui multiplie des petits boulots pour s'en sortir, qui essaye de s'extraire de sa condition de fille, de femme de ménage. Elle est en couple avec Cristiano, qui est un ouvrier qui se bat, lui, pour garder son travail, ce qui va malheureusement être compliqué assez rapidement dans le roman. Et puis Romain, donc, le bobo de service, on peut dire ça, hein, qui travaille dans la culture. Et le livre part donc de ce constat que, impossible, alors qu'ils habitent et fréquentent à peu près les mêmes endroits, qu'ils se rencontrent. Alors, c'est un livre que je trouve assez plaisant à lire sans être passionnant, bien conçu sans être un grand roman, je le dis d'emblée, et surtout qui m'intéresse pour deux raisons. Déjà, il faut le dire, hein, ça m'a accroché parce que En guerre, ça a été le titre d'un film dont on a parlé il y a quelques mois, un film de Stéphane Brisé, et il se trouve que ce film était aussi un film sur un conflit social en cours dans une usine, et qu'il posait énormément, à mon avis, de problèmes sur la question de la représentation de la classe ouvrière et de la classe populaire en particulier. Et à mon avis, ce roman pose à nouveau les mêmes questions avec le même type de problème. C'est un roman qui se veut être un roman social, nonobstant des sortes d'excursions que je trouve assez intéressantes, hein, sur les histoires d'amour, puisque ça devient un triangle amoureux, et d'autres personnages qui viennent s'ajouter, qui sont assez souvent brillamment croqués rapidement en quelques pages, et que je trouve souvent drôles et intéressants. Le problème, c'est le traitement réservé au personnage principal, et à quel point le roman qui se veut, à mon avis, un roman naturaliste, en effet, comme vous l'avez dit, hein, comme la quatrième de couverture le dit, sur la France d'aujourd'hui, englobe à force les personnages jusqu'à anéantir toute possibilité pour eux de se développer hors de la narration. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est la première fois que je me pose une question que je trouve assez intéressante. Je vous fais à moi-même des compliments.
D'accord, on va vous laisser, hein, Lucille.
Sur l'éthique, ce que doit un écrivain au personnage qu'il crée, aussi d'un point de vue politique. Est-ce que c'est possible d'enfermer à ce point des personnages dans un discours indirect libre permanent qui les fige absolument dans des conditions sociales ? même si, évidemment, ça bouge. Encore une fois, je trouve que c'est intéressant, parce que sinon je l'aurais pas mis au programme, parce que c'est pas facile de régler cette question, et qu'il y a une vraie dialectique, à mon avis, dans le roman, entre la narration à la française, le gros roman social, naturaliste, qui va à gros sabots, et une sorte d'échappée qui essaye de faire autre chose.
Grégoire Le Ménager, premier regard sur celui de François Bégodeau.
Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je trouve qu'il a certains défauts, certaines longueurs. Il y a quelquefois des tics d'écriture qui sont un peu énervants, qui sont un peu agaçants. Mais globalement, Bégodeau, il avait écrit son meilleur livre, je crois que c'était La blessure, la vraie. C'était il y a un bout de temps déjà, c'était il y a pas loin d'une dizaine d'années. Et là, il a retrouvé, il refait un livre un peu sérieux là. Ça y est, c'est bien. Il est doué ce garçon-là. Hein. Il est vraiment doué. C'est un champion du style indirect libre. Vraiment, il le manie avec une virtuosité qui est impressionnante. Et puis pour inscrire dans le livre toutes sortes d'idiolectes, de sociolectes, de tics de langage, ça va de la co-construction à tous les mots du management, en passant par d'autres. Il intègre les phrases de Valls au moment des attentats qui répètent « nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre ». Et tout ça avec une espèce de fluidité stylistique qui est vraiment impressionnante. Au passage, il nous campe des personnages, et effectivement, avec pas grand chose, avec quelques mots, quelques expressions, et il arrive à nous parler de la France contemporaine. Et finalement, qui est-ce qui fait du style indirect libre et qui, paraît-il, nous parle très très bien de la France contemporaine, qui, paraît-il, est le grand sociologue de la France contemporaine? C'est Houellebecq. Bégodeau, c'est de manière plus brillante, c'est de manière plus ludique, il y a quelque chose de beaucoup plus baroque chez Bégodeau, mais si on réunit ces deux traits, c'est-à-dire parler avec un œil un peu sociologue quand même de la France à travers des personnages et en utilisant la ressource du style indirect libre, Bégodeau le fait, ce qui sont les deux grands traits d'Houellebecq quand même, Bégodeau le fait très très bien, et avec une ironie permanente. Donc ça l'inscrit dans une espèce d'héritage de Flaubert, comme ça. Alors après, et c'est là peut-être la limite du livre, et là je vous rejoins un peu, en particulier pour ce qui est du personnage principal, le Bobo, l'intello de centre-ville qui coordonne une opération d'écloisonnement et vivre ensemble. C'est vrai que Bégodeau le charge un peu, s'en moque un peu, en même temps en faisant ça il se moque de lui-même, je pense. Et l'ironie flaubertienne, au bout d'un moment, ça finit par enfermer le personnage dans un... Mais c'est pas tout le temps le cas. Il y a aussi des moments où il respire, où il est émouvant, où il est touchant, où il les traite pas comme des crétins. Parce que le propre de l'ironie, c'est quand même aussi d'avoir quelque chose d'un peu insituable et laisser le lecteur libre de se faire son opinion sur les personnages. Et ça fonctionne très très bien pendant presque tout le livre. À la fin, Ça se boucle un peu moins bien, je trouve.
Étienne de Montetti, premier regard sur celui de François Bégodeau.
Je trouve que c'est un livre très, très réussi et qui pourtant se présentait de manière un peu intimidante ou un peu rédhibitoire, avec effectivement les premières pages, il y avait une réflexion presque de sociologie sur ces deux personnages qui, selon les chiffres et les spécialistes, n'avaient rien pour se rencontrer. Il y avait aussi dans les premières pages cette phrase que vous avez citée, je vous ai admiré, Arnaud Laporte, de citer cette phrase qui est probablement la plus longue du livre et qui fait une quinzaine de lignes. Et c'était aussi une manière un peu de montrer, pour Bégodeau, de montrer voilà, qu'il savait écrire. Tout ça pouvait un petit peu handicaper ce roman qui très très vite prend, je trouve, une force assez considérable, et notamment, et c'est par là qu'il y a une grande réussite, par sa force comique, c'est-à-dire de manière plus ou moins volontaire, la charge sociale, les personnages qu'il installe ont une force dévastatrice. Il y a notamment cette DRH de l'entreprise là qui s'appelle Catherine Tendron, qui a tout un discours du management essayant de faire passer pour quasiment du bonheur ce qui va être évidemment le malheur des employés, puisqu'il y a un licenciement massif, un licenciement massif qui s'appelle le plan de sauvegarde de l'emploi. Il y a une soirée à nuit debout avec la liste des revendications désordonnées et un petit peu à la Prévert, qui là aussi a une force comique tout à fait stupéfiante. C'est un livre qui est très efficace de ce point de vue-là. Il est rare que le militant politique pointe vraiment le bout de son nez, donc ça permet quand même de lire ce livre comme on l'entend, et ça c'est extrêmement agréable. Et puis il y a, c'est vrai, cette véritable histoire entre des personnages, une histoire d'amour, une histoire avec des gens qui ont des moments heureux, des moments malheureux. Les personnages ont leur liberté, ils gambadent les uns vers les autres. Je me suis simplement demandé tout au long de ce livre si Bégodeau maîtrisait parfaitement la charge comique qu'il avait mise en place. Il y a des moments, j'avais l'impression de lire Philippe Muret avec l'Empire du Bien, avec cette espèce d'univers irénique qui est évidemment un enfer. Je me suis posé la question, je ne connais pas assez Bégodeau, son discours et tous ses précédents livres, pour répondre à la question. En revanche, moi, j'ai véritablement savouré ce livre comme une satire bienvenue.
Bon, bah alors, il est logique que ça n'ait pas fait le même effet qu'à vous, puisqu'on est dans presque une sorte de miroir. Ce livre, il est fait pour qu'on puisse en dire beaucoup de choses, et donc vous en avez dit beaucoup de choses, parce qu'il parle de beaucoup de choses, il parle de la France. Une réserve, quand Houellebecq écrivait des bons livres, il me semble qu'il parlait du monde, là où Bégodeau est vraiment sur la France, et que on peut ne pas être d'accord, j'avais envie d'apporter cette précision. De mon point de vue...
J'ai peur que les mots du management n'existent pas qu'en France.
Hein. Non, mais il ne parle pas que de management. Houellebecq, il a écrit beaucoup de livres, vous vous y reporterez. Mais vous avez dit les mots virtuose, efficace, champion, doué, etc. Et comme ça va parler plus aux amateurs de foot, mais comme Bégodeau en est un, c'est comme ces jeunes prodiges, vous savez, qui font des très beaux débuts. Et pour moi, Jouer juste, qui est son premier livre, reste pour moi son meilleur, de très loin. Et puis après, ils se perdent un peu, c'est un peu le Laurent Paganelli des lettres françaises, si vous voyez la comparaison. Sauf que les écrivains, ils continuent à écrire des livres, ils ne sont pas seulement commentateurs... de leur ancien espace de jeu. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Alors, je vois bien qu'il se recentre un peu sur du plus sérieux. Mais le problème, c'est que je vois bien absolument tout ce qu'il fait à chaque page et que cette distance ironique n'est pas... Voilà, en faisant mine de se critiquer lui-même, enfin, il est beaucoup plus malin que ça, parce que c'est encore une fois un livre habile, mais pas au sens très... très bon pour moi de ce terme, et j'adore que vous aimiez cette histoire de Jules et Jim, dès lors qu'elle est sous la plume Bégodeau, un ménage à trois, ça vous dérange plus.
Non,
là où chez Christine... Ah bah si, excusez-moi, c'est la même trame amoureuse.
Pas la
franchement, elle est quand même les discussions du Romain avec ses copains, etc. Enfin, on est quand même dans une...
C'est de l'arrière-plan par rapport à...
Oui, mais non, mais comme vous en régaliez, je souligne juste... On a des discours complètement stéréotypés, des choses un peu affligeantes, qui sont de l'ordre d'un magazine pas très bon de société.
Il y a un jeu, il y a une distance, il y a une mise en forme.
Il y a un style, les dialogues sont...
Chez Christine Angot, il y a aussi un style.
Non.
Que vous appelez non-style.
Ben, je ne crois pas que ce soit du non-style.
C'est pas parce qu'on fait le malin.
Oui,
mais c'est pas parce qu'on fait le malin qu'il y a du style.
Alors, moi, je vois ce que vous voulez dire quand vous parlez de faire le malin, parce que je sens le côté ultra brillant, et c'est ce que j'essayais d'exprimer quand je voulais dire il maîtrise, il surmaîtrise. Il y a un truc de point de vue chez lui qui est tellement omniscient que ça devient.
Alors, une condescendance. C'est le problème.
C'est, à mon avis, une forme de suromniscience qui n'est, à mon avis, pas de la condescendance, et qui, à mon avis, est intéressant aussi politiquement dans ce qu'il fait au personnage, parce que ça entre totalement en contradiction avec le projet qui est justement de donner de la liberté et de donner du jeu au fonctionnement, aux mécaniques sociales. Et à mon avis, vous parliez du comique, en effet, il est présent à certains moments, mais c'est un livre extrêmement pessimiste sur l'état de la société française, pas française. Moi, après, moi, ça, je trouve ça intéressant, même si c'est que sur la société française.
Ah, mais j'ai pas dit le contraire.
Parce que on sent que c'est un échec, en fait, que l'écriture, que la forme que prend même l'écriture de Bégodeau pour camper ses personnages entre totalement en contradiction avec le projet de départ qui était de se faire rencontrer des personnages qui ne se rencontrent pas selon la logique de classe. Et ça, je trouve ça passionnant. Après, qu'il ait voulu le faire ou pas, moi, je m'en fiche, c'est pas mon problème quand je lis le roman. C'est ce qui produit chez moi comme type de
réflexion. Il y avait
le film de Lucas
Bellevaux sur le même sujet il y a quelques années.
Mais peut-être, mais je veux dire que le sujet soit le
meilleur,
même que d'autres choses... Enfin, je comprends pas en quoi c'est un argument. Que ce sujet ait été traité, rebattu, n'enlève pas au propos que ce style...
Ah non,
style,
mais moi c'est la forme qui me gêne, c'est pas le sujet du tout. Hein. Le sujet
je sais pas, vous parlez
est
du triangle
fait,
amoureux, par exemple. Le triangle amoureux est un sujet qui est traité totalement différemment.
Non, mais ça m'amusait par rapport à la discussion sur le livre de Christine
Angot.
Mais
c'est un sujet intéressant, les triangles amoureux.
Ça montre qu'on peut le réussir, le rater, le réussir à moitié. Et quelqu'un est plutôt du côté de la réussite, et Angot est carrément du côté de l'échec.
Quelqu'un qui tombe amoureux d'une fille qui n'est pas son genre, ça peut donner des bons livres.
Oui, pas son genre, c'était le titre du film Luca Belbo que je cherchais.
C'est une phrase d'un écrivain qui est passé à la postérité, je crois. Et qui était drôle aussi, et qui utilisait l'ironie aussi.
Ne comparons pas quand même ce qui n'est pas comparable.
Je suis désolé, non, c'est pas la question du sujet. Le sujet est intéressant. Et là, ce qui est fort avec Godot, c'est qu'il arrive à tout associer. C'est-à-dire qu'il passe d'un niveau d'analyse en permanence. Alors, il est peut-être trop intelligent pour écrire des grands, grands romans, parce qu'il est très, très intelligent. Mais il a une façon de passer d'un niveau d'analyse à l'autre.
Je dis François Bégodeau, qu'as-tu fait de ton talent?
On y prend du plaisir.
Je dis, en fait, pas autre chose.
C'est jubilatoire.
Ah non, moi, ça me hérisse de bout en bout, et si elle nous assure. Ça m'agace de bout en bout, comme vous a agacé Christine Angot, en fait.
Bon, bah écoutez, le monde est bien fait, alors je vous rends Christine Angot et vous prenez Bégodeau.
Prenez-le, mais je pense que l'un comme l'autre sont des écrivains et que par moments, ils arrivent à écrire des livres, à d'autres moins. Voilà, c'est tout ce que je dis, même si François Bégodeau m'a un jour interdit de parler de lui à l'antenne. Comme je lui dis, c'est pas lui qui fait le programme.
On s'explique.
Non, mais parce que qui aime bien châtie bien, et comme j'ai beaucoup aimé... Si vous voulez, je dis ce que je pense uniquement, et ça n'a rien de personnel. On parle des livres ici, et là on parlait d'Anguerre que vous avez adoré, c'est ça qui compte. Le livre de François Bégodeau publié chez Vertical. On conclut, on va se castagner après. Tous les soirs, on dit qu'on va se castagner après l'émission.
Bon, là, ça suffit. Pour moi, c'est bon.
Moi aussi. J'arrête. Moi aussi. Parce que ce qui se passe à la dispute reste à la dispute. C'est comme le jeu de la dispute, hein. Il est dans la dispute. Et on n'a plus beaucoup de temps, donc on va passer directement à la question de ce soir. Ma chère Sarah Dion, qui nous a rejoint, on fait gagner des places de cinéma pour Donbass, un film de Sergueï Loznitsa qui est sorti hier.
Et donc la question est, qu'est-ce que le Donbass?
Ça, c'était rapide. Votre réponse à cette question complexe, vous la voyez avec vos coordonnées postales par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Quand vous passez sur ce site, vous en profitez pour vous abonner au podcast de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous demain à 19h en public du Bel Air, le bar de la maison de la radio, pour une castagne consacrée au cinéma. Nous serons en compagnie de Florence Colombani, Corinne Rondeau, Thierry Chaise. Vous voulez pas venir, non, Lucille Comot, vous êtes sûr? Nous parlerons justement de Donbass, nous parlerons justement de Un peuple et son roi, et nous parlerons également du film de Wanuri Caillou, Rafiki. Il y aura aussi un coup de cœur signé Corinne Rondeau.